Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Après Vibre SOS sur l'antenne de Graphite, c'est Biotine, l'émission de l'actualité scientifique, technique, médicale, de l'espace, des animaux, de tout ce qui vous intéresse. Je m'appelle Jean-Noël et Carole est toujours avec nous.
Bonjour Jean-Noël.
Carole.
Comment vas-tu?
Ben écoute, ça va, c'est gentillé. C'est un peu plan-plan. J'ai envie que nous fassions une émission folle.
Très bien. Ben allons-y, hein, je compte sur toi.
Eh bien écoute, il ne faudra pas trop compter sur l'éphéméride qui n'est pas non plus d'une grande réjouissance. Bon, aujourd'hui, 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme.
Oui,
bon, ok.
Oui, très bien.
Célébré par l'Organisation mondiale du mouvement scout. En fait, c'est en souvenir de la date de naissance de Lord Baden-Powell en 1857, qui est le fondateur du scoutisme. Et donc, on a dit, eh bien, il est né le 22 février. Donc, on va décider que le 22 février sera la journée mondiale du scoutisme. Bon, ok, d'accord.
Est-ce que tu as été scout, Gino ?
Non.
Très bien.
Tu peux noter ça sur tes feuilles. D'un point de vue de l'actualité scientifique et technique, un 22 février, il y a quand même Galilée qui présente en 1632, un 22 février, son ouvrage « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde ». Il le présente au grand-duc de Toscane, Ferdinand II de Médicis. C'est en 1632. Et on savait que c'était un 22 février, à 10h30-35 à peu près, je pense. Le 22 février 1977, le Japon place en orbite terrestre son satellite de télécommunication Kitu 2. Kitu 2.
Kitu 2. Kitu 2.
Kitu 2. Le Japon.
Oui.
Satellite. On n'en parle plus en fait du Japon.
Non, mais parce qu'ils ont fait ça il y a longtemps. Mais
1977. Ouais. L'année d'après, c'était la NASA en 78 qui place en orbite terrestre le satellite américain d'aide à la navigation Navstar 1 et le satellite JPD, qui détectera les essais nucléaires en 1986.
Ok, non mais je réagis pas parce qu'il n'y avait rien de drôle. Mais...
C'est pas drôle. 22 février 1986, la fusée européenne Ariane 1 met en orbite le satellite français d'observation de la stère Spot 1, je vais y arriver. En 1997, c'est, ça on s'en souvient, la présentation de la brebis Dolly aux médias.
Ah oui.
En 97, ça fait 23 ans à 22 février, premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau de cellules somatiques adultes. Ça avait fait énormément de bruit dans les médias. En 2017, cette annonce de la découverte de 7 exoplanètes de taille terrestre autour de l'étoile TRAPPIST-1, certaines dans sa zone habitable. On en avait parlé il y a donc de cela déjà 3 ans. Je crois que PJ était avec moi quand on avait fait cette émission sur la découverte de ces exoplanètes. Naissance le 22 février 1586 de François-Gilles Massé, mathématicien, astronome français. Il s'occupa plus spécialement d'astronomie et il fit plusieurs observations du ciel avec beaucoup d'intérêt. Intelligence et d'exactitude, quoi qu'il mêla selon l'usage du temps un peu d'astrologie judiciaire à l'astronomie, on a de lui un ouvrage fort estimé sur la comète de 1618 et quelques poésies qui ne sont pas sans mérite également. François-Gilles Massé, né le 22 février 1586. Beaucoup plus proche de nous, il y a 2 ans, meurt le physicien canadien Richard Edward Taylor. Il a reçu le prix Nobel de physique pour ses recherches pionnières portant sur l'étude de la diffusion profondément inélastique des électrons sur des protons et des neutrons liés, qui a été d'une importance essentielle pour le modèle des quarks en physique des particules. Je n'en dirai pas plus parce que c'est pas facile avec le média radio de parler de physique des particules, mais en tout cas, Richard Edward Taylor avait reçu un prix Nobel de physique pour cette découverte. Il est décédé il y a 2 ans, le 22 février 2018. Il avait pas loin de 90 ans, ce physicien canadien. C'était l'éphéméride du jour. Carole, de quoi nous parles-tu ?
Alors, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de sujets, beaucoup d'actualités scientifiques.
Mais oui, mais j'aime bien comme ça, parce que là, on va un petit peu picorer sur plein de choses.
Exactement. Et pour commencer, on va parler du stress. Alors, ce n'est pas le stress que je ressens quand je vais dans le studio, heureusement. Hein. Mais il a été mis en évidence que le stress favorise l'apparition des cheveux gris. Donc quand on dit se faire des cheveux blancs et en parlant de quelqu'un de très stressé, eh bien ça...
C'est validé scientifiquement alors,
c'est
finalement.
C'est exactement, hein, l'expression se faire des cheveux blancs. Eh bien elle n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque des chercheurs viennent de prouver que le stress pouvait bien causer un blanchiment irréversible. Moi c'est ça qui m'a fait peur, irréversible des cheveux, en provoquant l'épuisement des réserves de mélanocytes responsables de la coloration donc de ce même cheveu. C'est Futura Science qui nous en parle. Alors on connaît la légende qui raconte que la chevelure de la reine Marie-Antoinette aurait entièrement blanchi la nuit précédant sa montée sur l'échafaud en 1793. Alors, si le syndrome de Marie-Antoinette désigne le blanchiment soudain de tous les cheveux, et que c'est certainement un peu exagéré, le stress serait bien un facteur de blanchiment accéléré et irrémédiable. Et c'est ce que montre cette nouvelle étude parue le 22 janvier dernier dans la revue, très sérieuse revue, Nature. Alors rappelons d'abord pourquoi les cheveux ont tendance à grisonner naturellement quand on vieillit. Ce phénomène naturel porte le nom de canicie. La pigmentation provient de la mélanine, hein, qui est produite par les granules de mélanocytes localisés dans le bulbe du follicule pileux. Et ces mélanocytes sont au contact des kératinocytes qui produisent le cheveu en se multipliant. Alors ce qui se passe avec le temps, eh bien, c'est que le nombre de mélanocytes diminue progressivement, tant au niveau du bulbe pileux, dans le réservoir de mélanocytes souches.
Je vois pas ce qu'il y a de drôle.
J'essaie de ne pas rire. Je sais que tu essayes de faire ça discrètement, mais Jean-Noël est toujours malade. Donc il faut qu'il essaye de gérer ses problèmes de rhume.
Je suis malade.
Voilà. Alors, c'était très sérieux ce que je disais.
Ben oui, c'est pour ça que tu t'es interrompu.
Parce que le visuel était tellement drôle. Avec le temps, donc, le nombre de mélanocytes diminue, hein, le réservoir de mélanocytes souche. Et en fait, lorsqu'ils ne sont plus en quantité suffisante, eh bien, le cheveu vire au gris, puis au blanc. Plusieurs facteurs sont par ailleurs en cause dans la disparition des mélanocytes. Des chercheurs de l'université de l'Alabama aux États-Unis ont ainsi montré en 2018 que le gène MIFT, qui déclenche une réaction immunitaire lors d'une infection par un virus, par exemple, entraîne aussi une perte importante de mélanocytes. De même pour l'enzyme TRP2, pour tyrosinase related protein 2, dont l'absence d'expression intensifie la disparition des mélanocytes en les rendant plus sensibles aux agressions comme les radicaux libres oxydants. Une déficience en vitamines, le tabagisme, l'exposition aux UV ou des maladies auto-immunes peuvent également provoquer un blanchiment des cheveux. Alors finalement, on a beaucoup de raisons de se faire des cheveux gris ou des cheveux blancs. Mais cette fois-ci, l'étude parue donc dans Nature, elle pointe le système nerveux sympathique. En effet, ce dernier, il joue un rôle central dans la réponse au stress, notamment en produisant de la noradrénaline. Et cette dernière, hein, la noradrénaline, elle est absorbée par les cellules souches de mélanocytes qui se transforment alors à toute vitesse en mélanocytes actifs. Alors, Yachie Su, biologiste à l'université de Harvard et co-auteur de l'étude, nous explique que chez la souris, le réservoir de mélanocytes souches est ainsi épuisé en moins de 5 jours. Et quand tous les mélanocytes souches ont disparu, le cheveu repousse blanc. Les dommages sont donc irréparables. Alors, les chercheurs ont également découvert que les inhibiteurs de CDK, pour Cycling Dependent Kinase, une protéine qui favorise la différenciation des cellules souches et qui peuvent stopper le blanchiment des poils chez la souris. Oui, je précise parce que je me disais, oh, on parle de cheveux chez la souris. Non, on parle de poils chez la souris. Il regarde le blanchiment des cheveux. Non, chez la souris, donc, ce sont les poils, chez l'homme, les cheveux. Alors, un traitement chez l'humain, il semble cependant assez peu probable pour l'instant, étant donné que la CDK joue un rôle essentiel dans le métabolisme cellulaire. C'est-à-dire que des inhibiteurs de CDK, ils sont toutefois en test dans le traitement contre le cancer, mais là, ne seraient pas à l'étude pour, du coup, trouver une solution aux cheveux blancs et garder nos cheveux avec leur couleur originelle. Donc voilà, mécanisme identifié, mais qui reste encore à étudier plus en détail, hein, pour en savoir plus.
J'étais en train de chercher sur Internet quelle est la différence entre...
Je te voyais chercher, je me dis de quoi on va... Oui.
Parce que tu dis, ben oui, c'est vrai, quelle est la différence entre un cheveu et un poil, en fait?
Et tu vas nous le dire, non?
Eh ben, en fait, tout simplement parce que, mais de toute façon, ça semble évident. Le cheveu, lui, a une croissance continue, en fait. Le poil a une croissance qui va s'arrêter à un moment et qui va être remplacé quand il aura atteint sa longueur maximale. Donc,
d'accord.
Voilà. Et donc, du coup, au niveau des souris, effectivement, on ne voit pas des souris avec des poils très longs, qu'on appellerait des cheveux, tu vois, avec des poils qui...
Oui, oui, merci.
Et non, du coup, voilà, la différence entre poils et cheveux. C'est toujours intéressant. intéressant de savoir quelle est la différence entre un cheveu et un poil. Dans n'importe quelle conversation, tu peux le placer.
En fait, oui, si pour les dîners mondains, c'est très bien, c'est très bien. Mais en tout cas, ça prouve quand même que... alors, je voyais ce titre en gros avant où il disait que le stock de mélanocytes peut être épuisé en 5 jours. C'est chez la souris. Sinon, autant vous dire qu'on serait beaucoup à avoir déjà des cheveux blancs depuis longtemps. Hein. Mais ça prouve aussi que chez les personnes extrêmement soumises au stress, il y a potentiellement une accélération.
Bien sûr.
Ouais.
Ça, c'est évident. On l'a déjà vu. Enfin, je suppose. Certains envisagent l'hydrogène comme étant le carburant de demain, mais aujourd'hui, il est majoritairement produit à partir de sources fossiles. Pour rendre l'hydrogène plus propre, il est envisagé de le produire à partir de l'eau, et donc par une réaction d'électrolyse de l'eau. Et cela, on doit utiliser une électricité renouvelable. Cependant, les technologies actuelles manquent totalement de compétitivité. Reste la voie de ce qu'on appelle la photocatalyse, une manière de craquer les molécules d'eau directement grâce à l'énergie solaire. Eh bien, il y a des chercheurs de l'Université de l'État de l'Ohio aux États-Unis qui annoncent aujourd'hui avoir mis au point une molécule capable à la fois d'absorber efficacement la lumière du soleil et capable de jouer les catalyseurs pour transformer cette énergie en hydrogène. Et en captant l'ensemble du spectre, eh bien cette molécule est capable d'exploiter plus de 50% d'énergie solaire en plus que les panneaux solaires actuels, les cellules photovoltaïques. La molécule en question est un dérivé du rhodium, R-H-O-D-I-U-M. C'est un métal dur et cassant, et après l'avoir plongé dans une solution acide et après l'avoir éclairé avec des lumières assez puissantes, les chercheurs ont pu observer une production d'hydrogène, le résultat justement de l'excitation de la molécule par les photons qui nous venaient donc de la lumière. L'ennui, c'est que le rhodium, c'est un métal rare et donc cher. Et avant que l'avancée ne puisse être commercialisée, il faudra donc améliorer la durée de vie du catalyseur et mieux encore trouver un autre catalyseur du même type fabriqué à partir d'éléments moins coûteux. Et donc là, la recherche est un petit peu freinée, cette fois par des problèmes de coût. Mais si on arrive à contourner ce problème de coût, on a une piste vraiment intéressante de production d'hydrogène qui pourrait être notamment le carburant de nos véhicules du futur. Production d'hydrogène vraiment efficace et optimale, c'est assez prometteur et ça peut être vraiment intéressant, on suivra ça bien sûr. Carole, à toi.
Alors, on passe du côté de l'environnement et on va s'intéresser à la région de l'Himalaya qui a une végétation assez particulière puisque des chercheurs britanniques ont observé de nombreuses images satellites de l'Himalaya dont certaines datent de 3 décennies. Et selon eux, eh bien, la végétation colonise de plus en plus le terrain et ce jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Alors, les chercheurs s'interrogent, hein, mais ils ne savent pas encore quel est l'impact de cette avancée de la végétation sur le cycle de l'eau. Et c'est le site internet Science Post qui nous en parle. Alors, c'est une étude parue en juin 2019 qui s'était intéressée au départ aux pertes de glace dans l'Himalaya entre 2000 et 2016. Les scientifiques avaient conclu que les glaces y fondaient 2 fois plus vite qu'il y a 20 ans. Alors, le réchauffement climatique n'est jamais très loin. Et dans la même continuité, eh bien, une autre étude parue dans Global Change Biology le 9 janvier donc de cette année a permis de se rendre compte de ce qui se passe entre 4000 mètres et le sommet des montagnes. On rappelle évidemment que dans la région de l'Himalaya, on est généralement au-dessus de 4000 mètres. Hein, c'est très très haut en altitude. Selon les chercheurs de l'université d'Exeter au Royaume-Uni, la végétation recouvre de plus en plus l'aire Hindou-Kush-Himalaya. On y trouverait, de manière plus présente, des lichens, des mousses, des plantes à fleurs et autres buissons. Alors, pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont comparé les images actuelles de Google Maps avec le suivi de satellites, donc les satellites Landsat de la NASA, depuis 1993. Par ailleurs, les chercheurs de cette étude ont indiqué que la végétation avait le plus colonisé les terres à une altitude comprise entre 5000 et 5500 mètres. La prochaine étape sera d'envoyer des volontaires sur place pour déterminer quelles espèces de plantes parviennent à se hisser à une telle altitude. Alors évidemment, terrain un peu compliqué, parce que vu les conditions d'altitude, il faut être préparé, il faut être capable de le faire. Alors, quel est l'impact de cette découverte sur le cycle de l'eau ? Il s'avère que l'étude britannique, elle ne creuse pas hein, du côté des causes de cette colonisation de la végétation. Il s'agit davantage pour l'instant de l'augmentation des températures du fait du changement climatique, c'est ce que je disais. Ça, c'est une des conséquences du réchauffement. Toutefois, il incombe de surveiller cette augmentation de la végétation en haute altitude et d'en apprendre davantage hein, sur les effets au niveau du cycle de l'eau de la chaîne de montagne. Rappelons que le système Hindu Kush Himalaya alimente les 10 plus grands fleuves du continent asiatique. Ainsi, le cycle de l'eau y est vital pour une population très nombreuse. Évidemment, hein, tout changement de ce cycle pourrait affecter la disponibilité en eau potable. De plus, la végétation capte l'eau afin de la restituer à l'atmosphère par évapotranspiration. Elle maintient également l'humidité des sols et réduit l'érosion des montagnes. Concernant l'augmentation de la végétation en haute altitude, personne ne sait encore si les effets seront négatifs ou positifs. À l'avenir, on imagine que d'autres études tenteront d'apporter des réponses à cette question.
Eh bien oui, parce que c'est aussi important, bien sûr. Et là encore, on est dans une région du monde qu'on évoque très peu dans cette émission. Je vais te parler du premier robot vivant qui a été créé à partir de cellules souches de grenouilles. Ça vient de voir le jour et depuis quelques jours, ça fait quand même assez le buzz, comme on le dit dans les médias, parce que c'est assez important. Alors non, c'est pas un cyborg, c'est pas encore ça, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant. Ce n'est pas un robot traditionnel, hein, ni une nouvelle espèce animale, mais une toute nouvelle forme de vie entièrement programmable. C'est ce qu'explique Joshua Bongard, ingénieur en robotique à l'université du Vermont et qui est donc l'un des concepteurs de ce projet. Ces xénorobots, comme ça qu'on les appelle, en tout cas c'est comme ça que les ont appelés les chercheurs, mesurent moins d'un millimètre de long et sont capables de se déplacer de façon autonome, de survivre pendant plusieurs semaines sans nourriture et de collaborer ensemble. Ce n'est pas la première tentative de créer une vie artificielle. L'année dernière, des chercheurs de l'université de Cornell avaient annoncé avoir créé des robots en ADN et on avait parlé dans cette émission, doté d'un métabolisme artificiel. D'autres approches ont tenté de construire des robots souples inspirés des animaux, serpents, cafards, oiseaux, tortues, anguilles, chenilles, poissons, méduses, insectes, chiens et j'en passe. Mais pour la première fois, nous avons créé des machines biologiques depuis la base. C'est ce que se félicitent les chercheurs dans leur étude relatée notamment dans la revue PNAS. Ces xénorobots ne ressemblent d'ailleurs guère à des animaux ou à des robots traditionnels, comme on l'a dit. Ils s'apparentent plutôt en fait, à une espèce d'embryon un peu informe. Les cellules, elles s'auto-organisent selon la façon dont elles ont été programmées. Des cellules souches sont d'abord prélevées sur un embryon de grenouille africaine qui s'appelle Xenopus laevis. Xenopus, xénorobot, c'est là d'où vient le nom. Ils ne se sont pas trop foulés finalement les chercheurs. Et après incubation, elles sont reconfigurées, ces cellules souches, par un algorithme évolutif qui génère des milliers de combinaisons possibles avec des cellules qu'on va appeler passives, par exemple des cellules de peau, et des cellules qu'on va plutôt appeler actives, comme par exemple les cellules cardiaques. Et ces cellules cardiaques assurent la mobilité de ce robot grâce à leur contraction. Il est ainsi possible de modifier les caractéristiques selon la tâche que l'on souhaite faire faire. Les chercheurs ont par exemple constaté que certaines configurations sont plus ou moins rapides ou qu'elles amènent les robots à s'auto-organiser pour collecter des matériaux pour manipuler des objets. Alors ces robots, ces xénorobots disposent de suffisamment d'énergie pour survivre de façon autonome durant 10 jours, mais leur durée de vie pourrait se prolonger de plusieurs semaines dans un environnement riche en nutriments notamment, c'est ce qu'indiquent les chercheurs. Ils sont en outre capables de cicatriser les blessures eux-mêmes. Ces xénorobots, c'est quand même assez intéressant. Le potentiel a de quoi faire rêver, ce qui pourrait par exemple transporter des médicaments dans le corps humain, nettoyer les plaques d'athérome dans les artères avant de se dégrader naturellement. Il pourrait également collecter le plastique dans l'océan, digérer des substances toxiques ou radioactives, ou alors identifier des molécules dans des environnements inaccessibles aux humains. Mais cette technologie offre des perspectives encore plus vertigineuses en les construisant à partir de cellules nerveuses et sensorielles. Les xénorobots pourraient être ainsi dotés de capacités cognitives et devenir donc entre guillemets, intelligent. Des perspectives qui ont de quoi soulever des inquiétudes. C'est pour ça que depuis quelques semaines, depuis quelques jours, cet article fait beaucoup parler, parce que certains vont s'alarmer du détournement possible de ces robots. Une crainte alimentée par le fait que le projet soit en partie financé par la DARPA, la branche de recherche de l'armée américaine. Eh oui, même s'ils ne sont pas pour l'instant capables de se reproduire ou d'évoluer, on peut imaginer des colonies de robots décidant par eux-mêmes d'envahir un organisme, de répandre un virus mortel, de détruire des objets. Pour le moment, leur comportement est dirigé par leur conception, elle-même déterminée par les algorithmes, sauf que l'intelligence artificielle est une véritable boîte noire dont les tenants et les aboutissants nous échappent de plus en plus. On le sait, la création d'organismes entièrement nouveaux, en dehors de toute évolution biologique, pose également de nombreuses questions éthiques, de quoi nourrir bien sûr les prochains films de science-fiction. Mais voilà, le premier robot vivant fabriqué à partir de cellules, et donc à base de cellules de grenouilles au départ, vient d'être annoncé dans cet article paru dans la revue PNAS, qui est aussi une revue assez bien coté, enfin, en tout cas
fait, oui.
C'est quand même
de
pas n'importe quoi, hein. c'est pas Voici ou Closer, évidemment. Donc là,
mais c'est pas là qu'on prend nos sources généralement, hein.
non mais en tout cas quoique on ne sait pas, mais en tout cas dans ce cas précis,
révélation.
On voit que c'est très prometteur mais aussi très inquiétant.
Oui, on en reparlera, j'imagine,
bien sûr,
dans l'émission.
Bien sûr, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, alors Xeno, donc au départ je comprenais pas, parce que Xeno, le préfixe Xeno est lié à étranger.
Tout à fait.
Donc je voyais pas, est-ce qu'il y avait le fait que c'était un robot étranger, ou donc ça vient, en fait, l'article nous explique que ça vient bien du nom de la grenouille. Donc voilà, du coup des xénorobots. Quoi ? J'imite très bien la grenouille. Je te propose, Carole, de faire une pause musicale, parce qu'à un moment,
il est temps.
Une pause s'impose. On retrouve nos amis auditeurs sur l'antenne de Graphite juste après avoir écouté ce groupe qui s'appelle Les Déboires. Ça ne s'invente pas. Et on va boire un coup aussi à nous. À consommer avec modération. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Choisir, laisse-moi la brune qui danse près du bar. Ok, je te vois bien venir, danse un peu et va me chercher à boire. Je suis là pour t'aider, mon frère, quand tu as trop de choix le soir. On s'amuse comme on peut, mais on sait qu'à la fin, ce sont elles qui choisissent. Si tu ne sais pas laquelle choisir, laisse-moi la blonde dans le mini-bar. Choisir, laisse-moi la blonde mini-bar. Ça, tu l'as déjà dit, mon frère, tu devrais peut-être arrêter de boire. On s'amuse comme on peut, mais on sait qu'à la fin, ce sont elles qui choisissent.
Graphite 94.9 FM.
Tu m'étonnes que c'est les déboires si c'est elles qui choisissent, évidemment. Ali Danel sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Tu n'arriveras pas à en placer une. Parce que je sais que
j'ai
tu
bien
réagir.
Aimé le titre. Oui, bah oui, je voulais réagir. J'ai bien aimé le titre. Voilà.
Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et vous avez bien raison. Depuis plusieurs années, nous vous proposons cette émission pour vous permettre de vous tenir informé de l'actualité scientifique. Si vous êtes fidèle de cette émission, et je vous en remercie, Vous savez que finalement la science, la technologie n'attend pas et elle ne va pas nous attendre pour avancer et prendre des décisions et aller dans des bons ou des mauvais endroits. Et donc du coup, toutes les semaines, on voit très bien que l'actualité avance à grands pas, qu'on fait des grandes recherches, des grandes trouvailles. L'homme a encore décidé de faire pas mal de... Tu t'amuses très bien avec le micro, Carole. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
J'essaye.
T'as un problème.
J'ai un problème, c'est-à-dire que mon micro ne tient pas tout seul. Ah, et c'est pour ça, il faut visser.
C'est comme tout, Carole. Oui, oui. Des fois, il faut savoir visser. Et donc, du coup, voilà, cette émission vous permet toutes les semaines de vous tenir informé de l'actualité scientifique parce qu'on peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas dans les médias nationaux généralistes de plus grande place pour la science. Et donc, voilà, merci de votre fidélité. Carole, de quoi nous parles-tu maintenant que ton micro est réparé ?
Alors, je vais parler du thé vert, pratique, hein, on le sait, extrêmement répandu chez nos amis asiatiques, et des bienfaits du thé vert pour le cœur. Puisque si on boit du thé vert, visiblement, notre cœur et nos artères nous remercieront. Hein, c'est ce qu'illustre une équipe de scientifiques chinois avec une vaste étude dans laquelle leurs travaux démontrent que boire du thé vert plusieurs fois par semaine augmente les chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Alors on pourrait se dire, pourquoi s'en priver ? Bien, cette étude donc, menée par des scientifiques de l'Académie chinoise de sciences médicales, elle a suivi donc plus de 100 902 adultes chinois sans antécédent de crise cardiaque, d'AVC ni de cancer et les ont partagés en deux groupes selon leur consommation de thé. Le premier regroupait les personnes qui consommaient du thé au moins trois fois par semaine et le second, ceux qui buvaient cette boisson moins de trois fois par semaine. Les participants ont ensuite été suivis pendant environ 7 années. Et alors, leurs résultats, hein, donc à ces chercheurs, ils sont parus le 9 janvier dans la revue European Journal of Preventive Cardiology et ont montré que le groupe habitué à la consommation de thé était plus susceptible de bénéficier d'années de vie en bonne santé et d'une plus longue espérance de vie. Les chercheurs ont par exemple estimé que les quinquagénaires amateurs de thé développeraient en moyenne un accident vasculaire cérébral ou une maladie coronarienne 1,41 ans au plus tard et qu'ils vivraient 1,26 années de plus que ceux qui ne buvaient pas ou peu de thé. C'est pas mal.
C'est prometteur, ça me fait plaisir.
Tu bois du thé ?
Bah évidemment, j'ai toutes les qualités, Carole.
J'adore très bien, je vous découvre des choses, je n'étais pas au courant. Alors,
je bois de tout en fait, mais notamment du thé.
Après, il faudrait voir s'il n'y a pas des impacts d'autres boissons et que ça annule pas les résultats précédents. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les amateurs de thé vert, eh bien, ils enregistraient un risque abaissé de 20% de maladies cardiaques et d'AVC, un risque moindre de 22% de maladies cardiaques létales et un risque abaissé de 15% de mort, toutes causes confondues, en comparaison avec les personnes qui buvaient peu de cette boisson. Alors, l'équipe scientifique, elle a aussi cherché à savoir si le changement d'habitude de consommation de thé eh bien, pouvait affecter le risque de maladie et de mort chez 14 081 patients. Après avoir évalué leur santé à deux moments de leur vie, ils ont trouvé que les sujets qui maintenaient une consommation régulière de thé au moment des deux entretiens voyaient leur risque d'AVC et de maladie cardiaque baisser de 39%, de maladie cardiaque létale décroître de 56%, alors que leur risque de mort toutes causes confondues baissait de 29% par rapport aux sujets moins friands de thé. Je trouve quand même que c'est assez frappant, les pourcentages sont assez importants. L'auteur de l'étude, enfin un des auteurs, Dongfen Gu, a noté que les effets protecteurs du thé étaient plus prononcés chez les personnes du groupe des buveurs réguliers de thé. Des études, en fait, des mécanismes ont montré que les principaux composés bioactifs du thé, qu'on appelle les polyphénols, ne sont pas stockés par le corps sur le long terme. Ainsi, un apport fréquent de thé sur une longue période pourrait être nécessaire à l'effet protecteur du cœur. De toute façon, en général, quand on est consommateur de thé, c'est quelque chose sur plusieurs années, c'est une habitude de vie. Donc ça viendrait, ça apporterait du crédit à cette hypothèse. Alors, leurs résultats ont aussi suggéré que la consommation de thé vert était liée à un risque abaissé de 25% de maladies cardiaques et d'AVC, de maladies cardiaques fatales et de morts toutes causes confondues. En revanche, aucune association significative n'a été trouvée pour le thé noir. Le docteur Gu souligne que la préférence pour le thé vert est caractéristique de l'Asie de l'Est. Dans la population que nous avons étudiée, dit-il, hein, 49% des consommateurs fréquents de thé buvaient surtout du thé vert, alors que seulement 8% préféraient le thé noir. La petite proportion de buveurs de thé noir pourrait rendre plus difficile l'observation d'associations claires, mais nos résultats laissent entendre qu'il y aurait un effet différentiel entre les deux types de thé. À voir. En effet, le biais peut être présent. Les scientifiques ajoutent que le thé vert est une bonne source de polyphénol. Ces derniers donc protègent des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque de la maladie, comme la tension artérielle. Le thé noir, en revanche, il est totalement fermenté. Ce processus oxyde les polyphénols et peut leur faire perdre leurs effets antioxydants. De plus, le thé noir est souvent servi avec du lait et des recherches précédentes ont montré que le lait pouvait contrecarrer les bienfaits sur la santé de la consommation du thé. Donc voilà, ça rejoint un petit peu quand même ce que je disais. Est-ce que certaines boissons ne peuvent pas contrecarrer une consommation régulière de thé ?
Bien sûr. Malheureusement, oui. Bon, bah très bien, ça nous permet de se rassurer, plus ou moins, on verra.
Bah, il faut se mettre au thé vert en tout cas, je pense.
Il faut se mettre au thé vert, oui, effectivement. Mais ce n'est pas la première fois qu'on l'entend parler, en fait.
Je l'ajoute parce que je suis, évidemment, l'Asie est pour moi un continent de cœur. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bonnes habitudes de vie, d'hygiène de vie qu'avaient les Asiatiques bien avant l'arrivée des fast-foods, etc. Notamment en termes de gymnastique presque journalière, en termes de boissons, etc. qui aussi les ont préservés en bonne santé pendant des siècles et des siècles.
Oui, donc c'était un cadre de vie associé au thé aussi qui permet d'avoir au thé ses bienfaits.
Non, je pense que le thé vraiment apporte ses bienfaits-là, mais c'était intéressant de voir qu'à certaines époques, en plus de certaines habitudes donc alimentaires, de boissons, etc., il y avait aussi des pratiques d'hygiène de vie et il y avait aussi pas mal de choses qui expliquaient qu'on trouvait des longévités chez ces populations qu'on ne trouve pas forcément chez nous.
Exactement, c'est pour ça. Oui.
Tout est lié. En fait, je trouve qu'on devrait en prendre de la graine. C'est un peu l'idée. Il y a des bonnes choses ailleurs. On devrait s'en inspirer un peu plus.
T'as envie de repartir là-bas, toi ?
Oui, ah bah si j'ai l'occasion, avec plaisir.
Et une étude qui va réjouir les partisans d'une réduction du temps de travail des salariés.
Oui.
Tout est lié à une époque où, bien sûr, l'intelligence artificielle, la robotisation remplacent de plus en plus les humains. Nous pourrions être amenés à travailler de moins en moins. Or, le travail est important pour la santé mentale. C'est ce que rappelle Brendan Burchell, sociologue à l'université de Cambridge. Nous savons que le chômage nuit souvent au bien-être des personnes et a une incidence négative sur l'identité, le statut, l'emploi du temps ou le sens du but collectif. Aussi, on peut se demander quelle est la quantité de travail rémunéré optimale pour le bien-être. Et pour le savoir, les chercheurs des universités de Cambridge et de Salford ont analysé les données portant sur 71 000 personnes âgées de 16 à 64 ans. C'est ça qui est intéressant. C'est quand même, on est sur un panel assez important. Et ils résident tous au Royaume-Uni. Et pendant une dizaine d'années, les participants ont répondu à des questions pour évaluer leur anxiété, leurs problèmes de sommeil et globalement leur santé mentale. Et cette étude paraît dans la revue Social Science and Medicine. Et il y avait une différence significative de santé mentale et de bien-être entre ceux qui travaillaient et ceux qui étaient sans emploi. Ok, mais les auteurs se sont intéressés à ce qui se passait quand des personnes qui étaient au chômage ou qui ne travaillaient pas pour s'occuper de leurs enfants reprenaient une activité professionnelle. Et ils ont constaté qu'en travaillant 8 heures ou moins par semaine, ces personnes voyaient leur risque de souffrir de problèmes de santé mentale diminuer de 30%. Mais travailler plus de 8 heures par semaine, je parle bien de 8 heures par semaine, si tu travailles plus, ça n'apporte pas de bénéfices supplémentaires en termes de bien-être. Les chercheurs suggèrent que la dose efficace de travail pour la santé mentale est donc une journée par semaine et pas plus. Il souligne également d'autres bienfaits de la réduction du temps de travail, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, une meilleure productivité et une réduction aussi des émissions de dioxyde de carbone liées au transport. Donc une journée de travail par semaine suffit pour booster la santé mentale.
Je vote pour.
Eh bien, tout le monde vote pour et tu pourras dire que c'est une étude sérieuse scientifique qui est basée sur 71 000 personnes et qui est parue dans la revue Social Science and Medicine, qui est aussi une grande revue, on évoque très souvent dans cette émission. Voilà, donc tu as tous les les arguments pour en parler à ton chef, Carole.
Dès lundi, sans faute.
Dès lundi, à moins qu'il ait déjà écouté cette émission et qu'il sait déjà à quoi s'attendre peut-être pour tes prochaines revendications.
Parfait, ben j'espère.
Espérons.
Alors moi, de mon côté, autre sujet, je vais donc parler d'Amazon. Hein, on en parle régulièrement, il se passe des choses du côté de ce géant d'Internet qui veut donc remplacer la carte bancaire par notre main. Alors, de quoi s'agit-il, hein ? Ce célèbre site d'e-commerce travaille en fait avec Visa sur un système de paiement biométrique où chaque carte bancaire serait liée à l'empreinte de la paume du client. Dans ce cas, plus besoin de sortir sa carte pour payer, il suffira de poser sa main devant un scanner pour que le paiement soit effectué. Alors moi, j'imagine déjà des films de science-fiction où on se fait couper la main, etc., pour pouvoir l'utiliser.
Ah oui, toi, tu pensais ça. Moi, je pensais que si tu poses ta main par une vanne d'hertance sur...
T'as payé.
Oui, non, mais c'est ça aussi, il faut faire gaffe.
Je sais, oui, bah oui, en tout cas, je pense que du coup, c'est sûr que, comment dire, après une soirée un petit peu arrosée, en boîte de nuit, on achète tout, quoi. Je sais pas.
Non, mais c'est vrai, bah, c'est hyper dangereux.
Oui. Oui, non, ça paraît, mais même en termes de...
Enfin, c'est hyper dangereux, pas pour Amazon, parce qu'Amazon a bien compris l'intérêt.
Bien sûr, évidemment.
Mais là, on est quand même sur quelque chose... Enfin, je sais
mais
pas.
Mais autant de facilité, de toute façon, pour payer, c'est toujours dangereux.
Oui, c'est vrai.
On se rappelle quand on parlait des fameuses puces implantées sous la peau, etc. Mais finalement, c'est un peu qui était relié à la carte bancaire. Hein? Il suffisait de scanner la puce. Voilà, c'est presque pareil.
C'est ça.
Alors, voilà, on va rentrer un peu dans le détail, en fait. C'est donc des brevets qui ont été déposés par Amazon qui envisagent de nous faire payer en caisse avec la paume de notre main. Et pour ça, donc, comme je le disais, il faudra passer la main sur un scanner, comme on le fait actuellement avec un code barre, pour que le paiement soit effectif. Alors, selon le Wall Street Journal, Amazon n'en est qu'aux prémices de ce projet, mais la firme a déjà noué des contacts avec Visa pour créer justement les terminaux capables de scanner la paume de votre main. Il ne s'agira donc pas des doigts, comme c'est le cas désormais sur les smartphones, on le sait, pour déverrouiller son appareil,
ouais,
ou des fois pour se connecter à son compte en banque via une application, mais bien de l'intérieur de la main. Plus exactement, ce sont les veines qui permettraient d'identifier une personne. Moi, je pensais que ça allait être les empreintes ou... Ben non, du
non,
coup, là, en effet,
ouais,
toute
c'est la paume.
Donc, oui.
Donc, c'est les veines, d'accord.
Mais je pensais que ça pouvait être les caractéristiques. Donc les veines de la main, ok. Alors, l'idée, c'est de...
dégoûte un peu. Bon appétit, je rappelle que les auditeurs sont en train
se mettre à table, c'est bien, oui. Alors l'idée, c'est de lier une carte bancaire à la paume de la main et c'est le magasin qui s'occupera de la numérisation. Donc la question, c'est est-ce qu'il faudra le faire pour chaque magasin, restaurant, boutique ? Pour l'instant, Amazon envisage de lancer cette technologie biométrique dans des enseignes de type fast-food ou café. En fait, l'idée, c'est de faciliter le paiement dans les établissements que le client fréquente au quotidien ou de manière hebdomadaire. Alors ça, c'est bien une idée des États-Unis où, c'est ce que je te disais plus tôt dans la journée, tous les jours, ils vont chercher leur café, tous les jours, ils vont dehors faire leurs achats alors qu'on a... On fait souvent des achats à l'extérieur, mais on n'a pas les mêmes habitudes. Donc, je vois tout à fait, ils font tellement de petits paiements qu'en gros, là, tu passeras ta main, ça te prendra 2 secondes. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Donc, à chaque fois, on passe sa main sur le lecteur, on n'a plus à sortir sa carte bancaire. Et évidemment, ça devrait aussi fonctionner dans les boutiques Amazon, déjà présentes aux États-Unis et bientôt en Europe. Alors, il se pose la question, évidemment, de la sécurité des données, puisque l'empreinte de la paume sera stockée sur un serveur et en lien avec un compte bancaire. D'autant qu'il y a déjà eu des applications qui utilisaient la paume de la main pour s'identifier ou payer, et certaines avaient finalement été interdites, comme dans cet établissement scolaire de Floride, mais on en trouve encore dans d'autres États des États-Unis, notamment dans des hôpitaux. Et en fait, pourquoi ? Parce que ça inquiète les associations de défense de la vie privée, mais aussi ça peut motiver des pirates. Donc il peut y avoir un peu les deux effets négatifs. Lorsque le système justement avait été lancé dans des écoles aux États-Unis, au milieu des années 2010, des parents avaient obtenu son retrait et leurs arguments étaient logiques et surtout ils attendaient des réponses. Ils disaient que c'était très intrusif en fait et l'application de reconnaissance des veines, quelque chose qui les mettait assez mal à l'aise. Une mère de famille disait comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans les veines de ma fille pour qu'on ait besoin de les photographier ? Du côté des directeurs d'établissement, on avait reconnu un manque de pédagogie dans la présentation du dispositif. Il faut dire qu'ils avaient numérisé l'empreinte de la paume des enfants avant même d'en avoir parlé aux parents. Grande classe, communication parfaite. Alors, c'est vrai qu'on, là, l'article ne le détaille pas trop, mais on peut quand même vraiment s'interroger sur le problème, de la vie privée, des données stockées.
Mais c'est lié à ça, mais c'est lié à plein de choses. Les données, le traitement, le stockage des données, enfin, c'est en ce moment une vraie plaie parce qu'on ne sait pas du tout légiférer sur ça. Donc, c'est fait n'importe comment.
Ouais, exactement.
Et aux États-Unis, c'est peut-être encore beaucoup plus permissif. Ou en France, ça commence à être régulé avec le fameux RGPD, le registre général des données personnelles, si je ne dis pas
tout
de bêtises. Mais voilà, il y a ça. Autre chose, si je comprends bien, c'est que finalement, on a une paume différente et facilement reconnaissable avec le maillage des veines.
Je pense qu'il est assez unique entre les individus. C'est pareil, ça ne le détaille pas plus, mais je pense que oui, ça c'est...
Parce que ça ne me paraît pas assez fiable, en fait. Quand on voit déjà qu'on avait arrêté un mec, on pensait être Dupont de Ligonnès avec la moitié d'une empreinte digitale ou je ne sais quoi, on voit que ce n'est pas du tout
fiable.
Alors
que ce n'était pas du tout lui, oui.
Et que ce n'était pas du tout lui au final. Là, avec une paume de la main, je ne sais pas.
Après, ils le disent bien, on n'en est qu'aux prémices de ce projet. Donc je pense que là, pour l'instant, c'est aussi un gros coup de com'. Il faudrait regarder dans le détail les problématiques, justement, de peut-être confusion entre différentes signatures de la main, etc. Ça, je pense qu'en effet, ça pose question.
Ça pose question parce que ça soit un coup de com', oui, parce qu'effectivement, si ça a fuité de façon délibérée, mais je ne vois pas l'intérêt, en fait. Parce qu'au final, ce n'est pas nécessairement rassurant.
Je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça génial. Hein. Après, nous, c'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à regarder ça un peu avec danger, à se poser tout de suite les questions d'éthique qui sont tout à fait légitimes. Et alors que des gens vont voir qu'il n'y a aucun souci, que c'est hyper pratique. Un exemple, peut-être, en revenant un peu en arrière, l'histoire des paiements sans contact.
Ouais.
En France, on a quand même été beaucoup, moi-même, la première, était assez réticent sur le sujet, avoir la technologie au dernier moment, quand c'est vraiment devenu obligatoire, ne pas trop payer avec. Aux États-Unis, tout le monde paye comme ça. Et encore, limite, le paiement sans contact, c'est un peu presque désuet,
vieux, ouais.
Parce qu'ils sont tous avec Apple Pay, etc. Donc, et là-bas, tous payaient sans contact. Et en fait, j'avoue, le fait d'avoir donc fait ça pendant plusieurs semaines là-bas et de revenir ensuite ici... maintenant, je paye tout sans contact ici. En fait, ça me paraît
sans
normal.
Sans poser de questions.
Exactement. Enfin, en tout cas, en me disant, au final, ça revient au même. Il faut toujours vérifier ses comptes. Et s'il y a une activité anormale, vu que maintenant, on fait des paiements de toute façon sur Internet, il faut vérifier, il faut faire opposition. Mais en fait, c'est pareil. On est couvert. C'est-à-dire que si on découvre... Parce qu'à une époque, il y avait les fameuses machines qui étaient censées passer à côté par des personnes malveillantes pour effectuer des paiements en étant à côté de nous, avec notre carte dans la poche, etc. Bon, déjà, il fallait qu'elles soient quand même très près. Et de toute façon, si on observe des mouvements suspects sur nos comptes bancaires, en fait, il faut faire opposition, peu importe la façon.
Oui, et peut-être que là, on va être sur des petits achats avec la paume de la main. Quoique non, Amazon, on ne sait pas certain. Je ne sais pas, je trouve que c'est assez...
En tout cas, pour le sans-contact, c'est des petits achats, oui.
Oui, pour les petits achats, pour le sans-contact, oui, mais là, avec cette main, je ne sais pas. On va essayer d'en savoir plus pour voir un petit peu quelle est la technologie qui est développée et puis quelles sont... Enfin voilà, je n'étais pas à l'abri de poser une main comme ça d'une façon totalement... par inadvertance, et d'un seul coup, tu as payé un canapé.
Chose.
Pourquoi un canapé ?
Oups, une Ferrari. Ma main a ripé. Je voulais juste regarder la voiture.
C'est ça, c'est assez inquiétant. Biotil, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, c'est aussi une émission musicale. Donc on écoute un petit titre et on se trouve juste après avec Carole pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique. À tout de suite.
The angels came down from heaven. They left a present in my room. By chance I had a second pillow for you to spread your sweet perfume. Evangeline, I waited for you. I knew I'd meet you sometime. If I don't ever get to heaven, at least I got to visit just a while. I guess you'll go home with the moonlight.
The new day replace the night. Please let me pour a cup of coffee before you spread your wings of white. Leave me asleep if it's a dream. Please let me keep the Evangeline. If it's a curse, God, it's the worst. Don't take my dear Evangeline.
Graphite également à l'écoute sur graphite.net.
Et vous êtes peut-être comme nous en train de découvrir cet album Sauce Piquante de Théo Laurence avec le titre Evangeline.
On aime bien,
ça nous a fait du bien. On était un petit peu bloqués avec les casques et les micros, mais on a fait quand même une espèce de slow langoureux dans ce studio exigu avec Carole. Et crois-moi que les images seront donc diffusées sur le Facebook de Graphite. Vous écoutez Biotin tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et là, nous allons parler un petit peu de matériaux. Et le titre de cet article, c'est « Une brique vivante qui peut se reproduire ». Et c'est bien que quand j'ai vu cet article dans le site assez intéressant et génial de Futura Science, je trouve qu'il y a pas mal d'articles vraiment intéressants et très accessibles. Je vous invite justement à consulter régulièrement Futura Science, entre autres. J'ai donc cliqué sur cet article et j'ai essayé d'en savoir plus. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que la maison du futur, certains l'imaginent ultra connectée, une maison intelligente qui nous assiste dans toutes les tâches du quotidien, une maison plus pratique, plus confortable, une maison plus verte, plus économe en énergie surtout. Mais pour aller encore un peu plus loin, d'autres travaillent à développer des solutions de ce qu'on appelle d'éco-construction, d'une construction écologique et durable. Et du côté de l'Université du Colorado, des chercheurs dévoilent aujourd'hui leur stratégie en la matière. Elle vise à utiliser des bactéries pour développer des matériaux de construction qui vivent ces matériaux et qui se reproduisent tout en présentant une empreinte carbone meilleure que celle des matériaux traditionnels. En effet, aujourd'hui, la fabrication du ciment et du béton ne génère pas moins de 6% des émissions annuelles mondiales de dioxyde de carbone. Le milieu du bâtiment est très producteur de CO2 et il faut essayer de trouver des solutions. Ce que les chercheurs de l'Université de Colorado proposent, c'est d'inoculer des colonies de bactéries, précisément des cyanobactéries du genre Cinecolocus, dans une solution de sable et d'hydrogel. Et ces organismes vont alors s'appuyer sur la lumière du soleil. On va leur donner un petit peu de quoi bouffer, donc des nutriments. On leur donne également un petit peu de dioxyde de carbone pour se développer et ils vont produire du carbonate de calcium. De quoi déclencher la minéralisation de l'hydrogel qui va se lier au sable. Bref, tout ça va former une brique. Les premiers tests réalisés par les chercheurs montrent que les briques qui ont été formées de la façon suivante présentent une résistance à la fissuration supérieure à celle du mortier traditionnel. Donc on a vraiment des résultats en termes de tests mécaniques assez intéressants. Vous pouvez marcher dessus et ça ne casse pas. C'est ce qu'assure Will Schrebar, chercheur à l'Université du Colorado, dans un communiqué qui a donc travaillé sur ce projet. et environ 10 à 14% des colonies bactériennes utilisées étaient toujours en vie après 30 jours et 3 générations passées sous forme de briques. C'est un exploit lorsqu'on sait que les bactéries que l'on trouve dans les ciments auto-cicatrisants actuels présentaient une viabilité inférieure à 1% seulement sur la même période. Donc là, elles restent en vie. De quoi donc imaginer faire se reproduire les matériaux ? Alors à partir de là, on commence intellectuellement à essayer d'être dans un concept totalement surréaliste, parce qu'on va essayer de faire reproduire des briques, en clair. En fait, d'une façon partielle, en coupant une brique en deux, eh bien, chaque moitié qui va être replongée dans ce mélange de sable et d'hydrogel, eh bien, chaque moitié de la brique, va être capable de reformer une brique entière. Donc on va pouvoir avoir des descendances de briques, si vous arrivez à me suivre. Les bactéries se développent à un rythme exponentiel. Si nous parvenions à cultiver nos matériaux biologiquement, nous pourrions donc fabriquer à un rythme exponentiel. Si nous y parvenions, oui, parce qu'il reste encore aux équipes de ces universités et de leurs partenaires, pas mal de travail à accomplir, notamment pour améliorer la solidité du matériau et qui présente pour l'heure la résilience d'un ciment à faible résistance, mais aussi pour surmonter la difficulté suivante, c'est-à-dire que les bactéries ont besoin de conditions humides pour survivre. Le procédé n'est donc pour l'instant pas applicable dans des régions sèches. Faut plutôt aller en Normandie, par exemple. Mais les chercheurs envisagent déjà de concevoir des bactéries plus résistantes. Nous n'en sommes qu'au début de cette technologie, expliquent les chercheurs. À l'avenir, les matériaux de construction vivants pourraient être utilisés pour améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur. Ils pourraient également permettre aux matériaux de détecter et d'interagir avec leur environnement. Imaginez donc des briques qui guériraient elles-mêmes leurs fissures, mais surtout des briques qui pourraient aspirer les toxines ou encore des briques qui pourraient briller sur commande. C'est sans doute pas par demain, mais peut-être plutôt pour après-demain, c'est-à-dire quand même franchement bientôt. Des briques qui se reproduisent pour des matériaux de construction.
Assez
c'est
extraordinaire.
C'est écologique, c'est de plus en plus performant. C'est assez étonnant cet article, mais franchement, quand j'ai cliqué dessus, je n'ai pas regretté d'avoir cliqué dessus. Carole, on termine l'émission avec bien sûr nos amis les animaux.
Et oui, et bien sûr, et quelque chose d'insolite. Donc finalement, je vais rester un peu dans des découvertes qu'on ne soupçonnerait pas. Et je vais parler de nos amis les chats.
Ah, on n'en parle pas souvent des chats dans cette émission.
Non, et il faut savoir que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont particulièrement fans des chats et à qui je dédie cette étude dont je vais parler, et surtout ces faits, parce que c'est plutôt des faits qui sont relatés, hein, plus qu'une étude, j'ai envie de dire, vraiment scientifique, etc. Mais plusieurs chercheurs et non-chercheurs ont découvert que nos chats, c'est nos adorables compagnons, peuvent faire des choses assez horribles, puisqu'en fait, comme beaucoup d'animaux...
Déguenillez le sapin, par exemple.
Ah, ça,
comme
oui, c'est vrai que c'est pénible, mais non, mais là, c'est pire.
C'est pire.
Ils sont donc opportunistes, hein, comme beaucoup d'animaux. Opportunistes, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, là, en l'occurrence, c'est que si ils ont besoin de se nourrir, eh bien, ils peuvent le faire sur des cadavres. Oui. Hein ? Les chats sont sans pitié. Alors, on se dit, on a beau leur offrir les croquettes les plus chères du marché, les caresser, être là pour eux à longueur de journée, ils n'auront aucun scrupule à vous dévorer une fois que vous aurez passé l'arme à gauche. C'est Science Post qui nous en parle fin janvier, puisque plusieurs cas ont été signalés. Alors, par exemple, celui d'une Anglaise de 56 ans qui vivait dans la campagne de Ringwood, dans le sud de l'Angleterre. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette brave dame ? Eh bien, en avril 2013, elle avait été retrouvée sans vie à son domicile. Après des semaines de silence, bah oui, en fait, elle était morte, hein. Et surtout, elle avait été dévorée par ses chats.
Pardon.
Difficile de répondre après.
Mais évidemment, s'ils n'avaient rien à manger, des chats, mais les chiens auraient fait pareil.
Eh bien, je ne sais pas, il n'y a pas de comparatif, pas sûr. Pour le coup, franchement, pas sûr.
Mais quand t'as faim, le chien, au bout d'un moment, il mange.
Pas certaine. Pour le coup, vraiment, pour être
une
grande amie des chiens. Oui, je pense. Alors après, oui, je pense que ce n'est pas le même rapport et je ne suis pas sûre qu'on ait des cas comme ça à creuser. Je chercherai.
Chercherai. Elle s'est fait dévorer par ses chats. Elle avait un chat ou plusieurs chats ?
Alors, il y en avait plusieurs, mais déjà, ils ne disent pas combien. Mais déjà, ça nous pose la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un mythe, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? En tout cas, le médecin légiste il avait quand même précisé, parce qu'il avait vérifié, elle était morte en fait parce qu'elle avait succombé à une chute. Hein. Les chats ne sont pas non plus allés jusqu'à la tuer.
On n'en sait rien.
Non, justement, il a pu le prouver. Elle n'avait pas été attaquée par ces animaux. Mais une fois qu'elle avait succombé, donc qu'elle était morte, alors en effet, j'imagine qu'il n'avait plus trop de nourriture, eh bien, elle était à disposition et ils en ont profité. On a un autre cas, cette fois-ci en 1994 aux États-Unis. C'est le corps d'un homme qui avait été retrouvé partiellement dévoré par ses 10 chats. Alors là, on dit quand même 10 chats, c'est beaucoup. Sa tête, son cou et une partie de son bras avaient été décortiqués jusqu'aux os. C'est ce qu'on pouvait lire dans l'étude de cas. Mais ce n'est pas tout. Les félins ont également été retrouvés morts à côté du cadavre. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé, hein ? En fait, c'est assez drôle, entre guillemets, humour noir quand même. Des analyses en fait, ont ensuite permis de constater que l'homme avait succombé à une overdose de médicaments. Et donc, en se nourrissant de sa chair, les chats ont alors succombé à leur tour. Et oui, comme quoi, la viande avariée, c'est jamais bon, hein.
C'est énorme.
Une histoire un peu différente, c'est récemment...
C'est dommage qu'ils n'aient pas identifié le fait que la viande n'était pas si bonne que ça, en fait,
oui.
Ils sont comme nous.
Ça, c'est un peu étonnant, parce qu'en général... Bah alors après, je sais que ce n'est pas 100% sur les animaux, mais sur certaines choses, normalement, ils arrivent à identifier, oui. Bah alors visiblement, là, non. Donc, une histoire un peu différente s'est récemment déroulée dans le Colorado, toujours aux États-Unis, dans les établissements de la Forensic Investigation Research Station à Whitewater. Des chercheurs étudient la manière dont nos corps se décomposent dans un environnement naturel. C'est des études très sérieuses, hein, et ces travaux permettent aux médecins légistes de mieux déterminer le moment et la cause de la mort des corps parfois retrouvés dans des états de décomposition avancés. Donc voilà, on imagine tout ça. Après, ça sert pour faire les experts, etc. Hein, et pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et alors, il y a plusieurs mois, une quarantaine de corps humains, on imagine le bazar, ont ainsi été placés à l'extérieur du bâtiment. Parce que les animaux charognards font partie de l'environnement naturel, les chercheurs n'interfèrent pas avec leurs allées et venues. Il y avait quand même en fait des clôtures, il y avait des caméras de surveillance pour un petit peu surveiller, mais voilà, on peut imaginer que ces animaux, en effet, allaient pouvoir passer et détecter les cadavres. Et il y a quelques semaines, eh bien, deux chats ont alors fait irruption dans l'enceinte du bâtiment. Les chercheurs suggèrent qu'ils étaient sauvages, dans la mesure où les habitations humaines les plus proches ne se trouvaient qu'à plusieurs kilomètres. Le premier chat est entré dans la ferme et a commencé à manger le corps d'une femme de 79 ans. Selon les chercheurs, je me dis, waouh, ils ont leur choix, ils vont quand même sur de la viande d'un certain âge. Parce qu'en surtout, quand tu vas voir la suite. Hein. Donc, le chat, selon les chercheurs, s'est concentré sur les tissus mous et les couches de graisse. Fait intéressant, le corps a ensuite été placé sous une cage pendant une semaine pour un projet de recherche indépendant. Donc là, déjà, on imagine le temps passé. Le corps était déjà dehors, ils le mettent dans une... il a commencé à le manger, 79 ans. Ils le mettent dans une cage pendant une semaine, donc le chat ne pouvait plus y accéder. Mais ensuite, dès que la cage fut retirée, le chat est revenu continuer son repas tous les soirs pendant... 35 jours. En fait, ça me paraît énorme.
Oui, c'est énorme.
Et fait un peu étrange, hein, il ne prêtait même pas attention aux 40 autres corps placés à proximité.
D'accord, ok.
Le deuxième chat s'est de son côté concentré sur un homme de 70 ans. Il a été aperçu, bon après je trouve là les gens sont âgés, mais ça se trouve c'était que des gens âgés en fait. Il a été aperçu 10 fois en 16 jours, puis a disparu pendant un mois, avant de revenir sur le même corps pendant 2 nuits consécutives. Ça paraît dingue, alors du coup ils disent fidèle jusqu'au bout. Je ne sais pas, mais c'est assez étrange. Ce rapport de cas, donc on est d'accord, hein, plutôt sordide, n'en reste pas moins intéressant pour les chercheurs. Ils espèrent ainsi mieux appréhender les comportements de ces charognards qui sont répandus aux États-Unis. Dans les deux cas rapportés ici, hein, les chats sauvages ont montré une préférence pour les corps dans une décomposition relativement précoce. C'est ce qu'on peut lire, hein, dans les résultats de leur étude. Ils se sont ensuite arrêtés au stade de la putréfaction débutante lorsque les tissus mous commencent à se liquéfier. Alors visiblement, le stade de la putréfaction débutante, il met un certain temps à arriver quand même. Hein, parce que après 35 jours, voilà.
Bien sûr.
Donc on est consommable par des chats jusqu'à au moins 35 jours après notre mort. Voilà.
Sheba pour dire je t'aime.
Exactement.
Eh bien merci Carole.
Vous ne les regarderez plus avec le même œil.
Bon appétit à ceux qui sont à table, bien évidemment. Allez. Je voulais terminer avec cette musique douce parce que tu nous as quand même un peu plombé l'ambiance avec tes chats qui sont en train de nous bouffer quand on est mort.
Mais ils nous aiment tant qu'on est vivant et puis quand on est mort, on leur sert à survivre.
C'était Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite.
On se retrouve. On apprécie, oui.
On se retrouve samedi prochain à 12h peut-être, je l'espère.
Alors j'espère pouvoir être là, Gino. Je te tiens au courant.
Tu me tiens au courant. Amis auditeurs, restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. J'aime bien avec une petite musique comme ça.
Il faudrait qu'on trouve des fonds musicaux.
Ça nous change totalement. On se retrouve samedi prochain à 12h pour continuer bien sûr à développer l'actualité scientifique et technique. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. À bientôt.
À bientôt, Jean-Noël.